Aujourd'hui, nous recevons Laurent Vigroux. Laurent Vigroux est né le 14 juin 1949. Il est spécialiste de l'observation et de la modélisation des galaxies et des amas de galaxies et de leur évolution. Il est actuellement chef du service d'astrophysique du CEA à Saclay depuis 1993. Il est responsable du programme d'observation des galaxies proches avec l'instrument ISOCAM à bord du satellite ISO de l'Agence spatiale européenne qui a été lancé en 1995. Il est initiateur du projet de caméra grand champ MegaCam prévu en 2001 pour le télescope Canada-France-Hawaï. Il est co-responsable de l'instrument imagerie infrarouge lointain SPIRE qui sera lancé en 2007 dans le satellite FIRST de l'Agence spatiale européenne. Il a reçu en 1989 le prix scientifique Philip Morris et enfin, il a publié de nombreux articles depuis 1975 dans de nombreuses revues spécialités françaises ou étrangères et il a contribué à la rédaction de l'Atlas de l'univers paru aux éditions Universalis. Laurent Vigroux, donc, je vous laisse la parole pour 50 minutes, après quoi suivra un débat de 20 minutes. Je vous remercie.
Merci beaucoup. Donc, ce que je vais essayer dans les 50 minutes qui viennent, c'est de vous expliquer un peu les progrès qui ont été faits en cosmologie observationnelle grâce à de nombreux moyens qui ont été mis en œuvre et grâce au développement des technologies que on a pu utiliser pour ce type d'observation. Donc, en fait, qu'est-ce que c'est que la cosmologie si on... C'est simplement l'étude de l'univers et de ses constituants. Et cette étude s'appuie sur à la fois des observations, de la théorie, et depuis une dizaine d'années, sur des programmes de simulation numérique extrêmement puissants. Alors, quelle est la situation actuelle ? Depuis 30 ans, les gens ont fait des progrès considérables dans l'observation de l'univers. La première grande étape a été l'invention de la radioastronomie à partir des développements qui ont été mis au point pendant la guerre de 40 pour les radars. Et ça a été le premier grand bouleversement qui s'est passé entre les années 50 et les années 70. Et à partir des années 70, le développement des technologies spatiales a ouvert de nouvelles longueurs d'onde au champ d'investigation des gens qui s'intéressaient à l'univers. Parce que vous savez que sur Terre, en dehors des ondes radio et de la lumière visible, tout le reste est arrêté par l'atmosphère. Donc si vous voulez aller regarder des objets, des étoiles ou des galaxies à d'autres longueurs d'onde, il faut aller au-delà de l'atmosphère et c'est ce qui a été possible depuis les années 70 avec le développement de toutes les technologies spatiales. En parallèle, se sont développés aussi des grands télescopes au sol. Le plus grand télescope, pendant très longtemps, était celui de Palomar, qui faisait 5 mètres de diamètre. Maintenant, vous verrez, je vous montrerai plus tard, que nous avons beaucoup de télescopes qui font 10 mètres. Et ça, évidemment, contribue au progrès de ces observations. Donc, en fait, si on veut faire un inventaire des constituants de l'univers, il y a deux méthodes. Et la première méthode qui consiste à regarder quelle est la densité d'énergie par longueur d'onde dans l'univers. Alors là, on ne regarde pas les objets, on regarde simplement quelle est la densité moyenne d'énergie dans une longueur d'onde donnée. Et cette densité d'énergie vient de deux choses. Un qui est le fond diffus cosmologique sur lequel je reviendrai tout à l'heure, mais je pense que vous savez tous que il y a un fond qui était observé et qui correspond en fait à une relique, si on peut dire, du Big Bang. Je reviendrai là-dessus. Et donc ceci n'est pas lié vraiment à un objet particulier, une étoile, une galaxie, c'est vraiment lié, et c'est une propriété de l'univers. Par contre, il y a une émission diffuse qui est en fait la somme des émissions de tous les constituants. Et c'est ce qu'on appelle l'émission diffuse extragalactique, et les deux se superposent. Et on peut aussi aller faire des études d'objets individuels, bon, des galaxies, la matière qui se trouve entre les étoiles, la matière noire. Et les deux approches devraient être complémentaires, c'est-à-dire que lorsqu'on est capable de faire l'inventaire complet de tous les constituants, si on est capable de compter toutes les galaxies, on devrait être capable de recalculer l'émission diffuse extragalactique. Donc si vous avez un peu une approche où vous partez du haut de l'univers et de ses propriétés complètement intégrées, et une approche qui part du bas, où on part des constituants et on essaye de reconstituer l'univers lui-même. Donc je vais revenir sur ce fond diffus cosmologique. Donc il a été découvert en 1965 par Penzias et Wilson, qui étaient deux ingénieurs de la Bell Telephone. Et cela a d'ailleurs valu le prix Nobel. Et ils se sont aperçus qu'il y avait un rayonnement complètement isotrope et qui était très voisin de le rayonnement d'un corps noir. Alors un corps noir, c'est le rayonnement d'un ensemble de particules qui sont à l'équilibre thermodynamique. Donc c'est le type de rayonnement quand vous chauffez, une plaque de métal. Vous la voyez passer au rouge, c'est ce type de rayonnement qui existe. Alors évidemment, dans l'univers, on ne le voit pas dans le visible parce que c'est extrêmement froid. C'est 3 degrés Kelvin, c'est donc moins 270 degrés Celsius. C'est très, très froid et ça rayonne en radio. Et c'est pour ça que c'est les radioastronomes qui ont découvert ce rayonnement. Alors, qu'est-ce que c'est que ce rayonnement? En fait, c'est un rayonnement qui est un fossile d'une époque où l'univers était extrêmement chaud. Alors quand vous êtes dans un univers qui est très chaud, si vous êtes dans une température qui est supérieure à la température à laquelle l'hydrogène, qui est le constituant principal de l'univers, est ionisé, en fait vous avez un mélange de protons, d'électrons et de photons. Et les photons du rayonnement sont absorbés par les électrons et sont en équilibre avec les électrons et ne se propagent pas parce que dès qu'ils sont émis, ils sont immédiatement réabsorbés, ils rentrent en collision avec un électron, donc ils n'arrivent pas à se déplacer. Par contre, si vous refroidissez l'univers, à ce moment-là, vous recombinez les électrons sur les protons pour former des atomes d'hydrogène, et à ce moment-là, les photons, ils n'ont plus rien pour les arrêter, ils peuvent se promener. Et d'un seul coup, l'univers qui était complètement opaque devient transparent, et c'est le fossile de cette transition. Ce qu'on observe à l'heure actuelle, c'est-à-dire c'est tous les photons qui ont réussi d'un seul coup à se propager dans tout l'univers lorsque les électrons se sont recombinés sur les protons. Donc, depuis 1965, les gens ont essayé de caractériser le plus possible l'émission de ce corps noir. Et le résultat, je pense que c'est le résultat vraiment final, qu'on ne fera probablement pas mieux dans le futur, a été obtenu avec le satellite américain Kobe, qui a été lancé en 1989 et qui a fonctionné 4 ans et qui a fait une mesure précise dans tous les domaines de longueur d'onde de cette émission de corps noir. Alors vous avez ici la courbe. Ça marchera mieux comme ça. De l'émission qui est mesurée par Kobe. Alors, en fonction ici, donc vous avez la longueur d'onde, et puis ici, l'énergie. Alors, je vous demande de me croire, mais c'est exactement ce que prévoit la théorie de Planck sur l'émission d'un corps noir. Et c'est vraiment probablement le seul vrai corps noir qui existe dans l'univers. Alors, je vous ai dit que ce rayonnement était isotrope, uniforme. En fait, il présente des petites fluctuations. Alors, le corps noir lui-même est à 3 degrés Kelvin. Les fluctuations que l'on mesure sont de l'ordre de 1 dix millième de cette température. Donc, c'est extrêmement faible. Et qu'est-ce que ça représente? Ça représente, en fait, je vous ai dit que les électrons et les photons étaient en équilibre. Seulement, si vous avez des fluctuations de densité des électrons, ça va un petit peu changer la température du corps noir. Et donc c'est ce que l'on mesure en fait en regardant les fluctuations du corps noir, on regarde les fluctuations de densité au moment de cette recombinaison. Donc c'est un moyen extrêmement puissant pour regarder la structure de l'univers à cette époque. Alors là aussi le premier résultat a été obtenu par le satellite Kobe, et je pense que cette image des fluctuations de température du corps noir avait été largement publié dans tous les journaux, même de très grand public, parce que c'est vraiment la démonstration de quelle était un peu la densité de l'univers au moment de la recombinaison. Alors, quelles sont les questions qu'on peut se poser après Kobe? Parce qu'à ce moment-là, on dit, bon, on a vu le corps noir, on a vu des fluctuations, on est content. En fait, on est à moitié content seulement, parce que les fluctuations qui ont été mesurées par Kobe n'ont rien à voir avec ce que l'on observe à l'heure actuelle. Ce sont à des échelles qui sont beaucoup plus grandes que tout ce qu'on peut observer aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a des tailles caractéristiques, il y a des tailles de galaxies, il y a des tailles d'amas de galaxies, et ces détails qui sont à peu près 100 fois plus faibles que les tailles caractéristiques qui étaient observées par Kobe. Donc, si on veut vraiment faire le lien entre ce qui s'est passé dans l'univers ancien et on observe actuellement, il faut aller voir les fluctuations à des fréquences, à des résolutions angulaires beaucoup plus faibles. Ce qu'il faut aussi voir, c'est que les théories cosmologiques prédisent des fluctuations. Et en général, toutes les théories, elles ont le mauvais goût de prédire les mêmes fluctuations à grande échelle. C'est-à-dire que les observations de Kobe sont intéressantes parce qu'elles ont mis en évidence des fluctuations, mais elles ne sont pas discriminantes pour les différentes théories. Et là aussi, pour discriminer les différentes théories, il faut les regarder à plus petite échelle. Et c'est ça sur lequel les gens travaillent en ce moment. Donc, il y a eu un certain nombre d'observations qui ont été faites, essentiellement jusqu'à présent avec des ballons. Parce que pour aller observer ces rayonnements, il faut aller au-delà de l'atmosphère. Donc, il y a eu des ballons qui ont été lancés en 98 et 2000, en particulier le ballon Boomerang sur lequel je vais revenir, qui est un programme américain et italien. Il y a un ballon qui s'appelle Maxima, qui a été lancé en 99, qui est un ballon américain. Et Archeops, qui est un projet qui sera lancé l'hiver prochain, qui est un projet franco-italien et américain. Faire les ballons, c'est bien, c'est facile, c'est beaucoup plus facile que de faire un satellite. Par contre, c'est plus petit, c'est moins précis, et on peut l'optimiser, autant on peut l'optimiser pour des petites échelles angulaires sur l'observation sur le ciel, mais comme on ne peut pas observer très longtemps, on ne peut regarder que des toutes petites portions du ciel. C'est un peu la limitation des ballons par rapport aux satellites. Alors, le résultat le plus spectaculaire a été obtenu avec le ballon Boomerang, qui est un ballon stratosphérique qui monte à 40 km au-dessus de la Terre, qui a été lancé du pôle sud et qui a bénéficié de conditions exceptionnelles, ce qui en fait qu'il a pu faire le tour du continent antarctique en 15 jours. Donc, il est resté 15 jours en l'air et ça a permis donc de faire des observations très longues et très profondes, et ça a donc permis d'obtenir des résultats inégalés depuis Kobe. Alors vous avez ici le ballon, au moment où il était gonflé, ça c'est l'Erebus, c'est un endroit riant, et puis vous avez l'expérience ici qui est sur le camion qui va, et lorsque évidemment le ballon monte, il emporte l'expérience. Voilà le résultat principal de Boomerang. Alors, vous voyez, par rapport à ça, c'est la carte de Kobe. Voilà la couverture spatiale qu'a pu faire Boomerang. Vous voyez, c'est une toute petite portion du ciel. Et ici, vous avez une carte des fluctuations de température du corps noir qui ont été mesurées dans cette région, avec une échelle ici, c'est-à-dire que les points en bleu sont 300 microkelvin, c'est-à-dire 310 puissance moins 6, en degrés par rapport à la température de 3 Kelvin qui est la température moyenne, et ici les points les plus chauds qui sont 300 microkelvin au-dessus. Donc c'est ce que je vous disais, c'est facteur 10 puissance 4, on va 10 000 ou 100 000 plus faible que le signal principal. Alors cette observation a été extrêmement utile parce que c'était la démonstration que l'univers, en fait, est un univers plat. Vous savez que dans les équations, les modèles cosmologiques que l'on peut calculer à partir de la relativité générale d'Einstein, il y avait trois types de modèles, des univers qui étaient qui étaient accélérés, ce qui fait que l'univers continue à s'expandre indéfiniment, des univers où l'univers commençait par augmenter de rayons, puis se recontractait. Et puis, il y avait un univers qui était l'univers que préféraient les gens parce que c'était le plus simple. C'est l'univers où la géométrie est plane et où l'univers s'expand indéfiniment, mais en se ralentissant. Et vous avez ici les observations de Boomerang et ici des résultats de simulation pour un univers qui passerait par une expansion puis une contraction, et ici un univers qui serait en expansion indéfinie, et ici le cas de l'univers plat. Alors si on fait une analyse statistique, on s'aperçoit que cette simulation correspond pratiquement exactement à ce qu'a observé Boomerang, et c'est vraiment la première fois qu'on arrive à démontrer que nous vivons dans l'univers le plus simple qui puisse exister, ce qui est même, je trouve ça un peu dommage, parce que finalement, c'est presque embêtant. Alors, pour vous donner une idée de ce que ça représenterait, ça, c'est un montage qui a été fait par les gens de Boomerang, qui en font la photo que je vous ai montrée tout à l'heure, et qui ont mis ici, à la véritable échelle, les fluctuations de densité qu'ils ont observées. C'est-à-dire, si vous aviez un œil qui était sensible aux fluctuations du corps noir cosmologique, c'est ça que vous verriez, et ça vous donne un peu l'échelle angulaire sur le ciel de ces fluctuations. Et c'est, alors, si vous regardez les grandes constellations du ciel, vous voyez que c'est des choses qui sont plus grandes que les galaxies, mais qui sont de l'ordre de quelques, de l'ordre des amas de galaxies. Alors pour que vous puissiez vous rendre compte un peu du progrès qui est apporté par Boomerang, vous avez ici, alors je ne vais pas trop rentrer dans le détail, ici vous avez en fait l'échelle angulaire des observations, et ici la puissance de ces fluctuations de température, et ici vous avez tous les points de mesure qui avait été obtenu avant Boomerang. En fait, il y a une courbe ici, mais qui ressort du seul optimisme des théoriciens, parce qu'on peut faire passer absolument n'importe quelle courbe. Maintenant, vous voyez ici la position, le pic qui est là, correspond à cette position ici. Et vous voyez, les points qui ont été obtenus avec Boomerang sont beaucoup plus propres, et maintenant, on a des véritables contraintes sur les modèles. Alors, en fait, les vrais successeurs de Kobe sont évidemment les résultats obtenu avec les ballons, mais ce sera surtout la deuxième génération de satellites. Il existe deux satellites qui sont prévus. Le premier est un satellite américain qui s'appelle MAP, qui sera lancé en 2002, dont j'ai un dessin qui est un peu ici, et qui aura une résolution spatiale moins bonne que Boomerang, mais qui fera tout le ciel. C'est-à-dire qu'on sera sûr que l'observation qu'on a faite dans un coin du ciel est vraiment bonne. On n'a pas été floué par une propriété bizarre de l'univers à cet endroit-là. Par contre, le véritable Kobe des fluctuations, si on peut dire, sera le satellite Planck, qui sera lancé en 2007, qui est une mission de l'Agence spatiale européenne, qui aura une résolution spatiale meilleure que Boomerang, une sensibilité meilleure, et qui fera une couverture complète de tout le ciel. Donc c'est vraiment Planck qui apportera la réponse définitive à cette question sur la structure de l'univers. Donc, ce que l'on espère obtenir de toutes ces observations, ce sera vraiment d'avoir une détermination précise du type d'univers dans lequel nous vivons, et aussi une détermination précise des paramètres de ce modèle, puisque un modèle, il y a toujours des paramètres, il y a la vitesse d'expansion de l'univers, il y a la densité de l'univers, toute une série de paramètres qui seront fixés en comparant les observations à ces théories. Maintenant, je vais venir à la deuxième émission diffuse, qui est l'émission diffuse qui, elle, n'est pas du tout liée donc, à l'univers et à ses propriétés au moment de la recombinaison, mais qui est vraiment la somme des émissions de chacun des objets qui le constituent. Donc c'est en fait une émission qui domine l'émission de la densité d'énergie dans l'univers pour les longueurs d'onde, je dirais, en dessous du millimètre, où là, c'est vraiment les rayonnements émis par les objets qui l'emportent sur le rayonnement du corps noir. Donc pour analyser cette émission diffuse, on peut, comme je l'ai dit tout à l'heure, soit repartir des observations à très grande échelle qui font ce type de mesures, en essayant de mesurer le fond diffus cosmologique, mais qui mesure aussi l'émission diffuse extragalactique, ou on peut au contraire partir des objets et pour mesurer leur total. Alors, en fait, cette approche de l'émission diffuse, c'est utilisé il y a très longtemps. La première observation cosmologique, enfin la première formulation d'une a été faite au XVIIIe siècle par un physicien danois qui s'appelait Olbers. Il s'est posé la question, pourquoi est-ce qu'il fait nuit? Alors ça, c'est une observation facile à faire. Pourquoi est-ce qu'il fait nuit? Et en fait, il s'est aperçu que si l'univers était infini est complètement immuable, c'est-à-dire que les objets n'évoluaient pas. Normalement, on devrait être... D'abord, il ne devrait pas faire nuit, mais en plus, on devrait être tous grillés, parce qu'il y a une densité, un flux lumineux infini. Alors, pour ça, c'est très facile à comprendre. Si vous avez une étoile ici, elle émet de la lumière sous forme d'ondes sphériques, et donc, à un endroit donné, vous avez un flux lumineux qui est la luminosité, enfin qui est proportionnel à la luminosité de l'étoile divisé par le carré de la distance entre l'observateur et l'étoile. Maintenant, si vous avez un univers qui est homogène, isotrope, et dans lequel les étoiles sont les mêmes partout, ben vous prenez une couronne sphérique et vous avez un certain nombre d'étoiles sur cette couronne. Et évidemment, le nombre d'étoiles que vous avez sur la couronne, la calotte sphérique, est proportionnel à la surface de la sphère, puisque il y a autant d'étoiles partout. Donc à ce moment-là, le nombre d'étoiles est proportionnel au carré de la distance entre l'observateur et la calotte sphérique considérée. Donc vous regardez ça, vous avez le flux émis par une... Maintenant vous multipliez ces deux nombres, et vous voyez que chaque couche d'étoiles, chaque calotte sphérique a la même brillance. Donc comme a priori il y a un nombre infini, si l'univers est isotrope, vous avez une brillance infinie. Alors évidemment, là, il fait nuit. C'est-à-dire ça, c'est un fait objectif que vous pouvez me croire sur parole. Donc, il y a eu quelque chose qui n'est pas correct dans les deux hypothèses de base. Et en fait, tout est faux dans l'hypothèse de base. C'est ça qui est bien. Parce que maintenant, on sait que l'univers n'est pas infini. Il a forcément un rayon, un horizon, qui est en fait, puisque la vitesse de la lumière est finie, en géométrie la plus simple possible, l'horizon, ça ne peut pas être plus grand que l'âge de l'univers multiplié par la vitesse de la lumière. On sait aussi que l'univers n'est pas complètement homogène. On voit qu'il y a des galaxies, il y a des amas, il y a des super-amas. Et en plus, maintenant, on sait que tous les objets de l'univers évoluent avec le temps. Et donc, toutes les hypothèses du paradoxe d'Hölbert, en fait, sont fausses. Donc, heureusement pour nous. Donc, maintenant, ce que l'on peut se poser comme question, en essayant de regarder la même chose, c'est qu'est-ce qu'il y a dans cette émission diffuse ? Il faut regarder quels sont les constituants de l'univers que l'on va aller rechercher. Donc, d'abord, il y a de la matière normale, c'est-à-dire celle dont vous êtes fabriqué, où je suis fabriqué, les protons, les électrons, les atomes, les molécules, qui sont en fait les constituants principaux des étoiles du milieu interstellaire. Vous avez aussi le rayonnement, c'est-à-dire les photons, la lumière. Et puis vous avez aussi quelque chose qu'on ne sait toujours pas ce que c'est, qu'on appelle la matière noire. Alors la matière noire, c'est un mauvais nom, ça veut simplement dire qu'on ne sait pas ce que c'est, qu'on ne la voit pas. Simplement, elle se manifeste par le comportement dynamique des objets. Si vous regardez la manière dont la Terre tourne autour du Soleil, ça vous donne la masse du Soleil qui est au centre. Imaginez que le Soleil est 10 fois plus de masse, la Terre tournerait beaucoup plus vite autour du Soleil. Maintenant, si vous faites le même raisonnement sur des objets à une échelle plus grande que le système solaire, vous apercevez toujours que les objets tournent plus vite ou se déplacent plus vite que ce qu'on attendrait de la quantité de matière que l'on observe. Donc, il y a un problème de matière noire dont on ne sait toujours pas vraiment ce que c'est. Bon, ce que l'on a vu maintenant aussi, c'est qu'il y avait une organisation hiérarchique de la distribution de la matière normale qui part des étoiles. Les étoiles se regroupent en galaxies qui font quelques centaines de milliards d'étoiles. Les galaxies elles-mêmes se groupent en amas de galaxies qui font entre 10 et 10 000 galaxies. Les amas de galaxies eux-mêmes se forment dans des grandes structures qu'on appelle des super-amas. Et entre tout ça, il y a du gaz, des poussières qui sont entre les étoiles et entre les galaxies. Donc, ce que l'on veut étudier, les constituants de l'univers, c'est relativement compliqué parce qu'il faut essayer de comprendre d'où viennent cette hiérarchie et aussi quelle est l'interaction entre tous ces différents constituants. Et c'est depuis une dizaine d'années, les progrès des ordinateurs ont permis de faire des simulations numériques extrêmement puissantes qui permettent tout de même maintenant d'aller appréhender nettement mieux les propriétés de ces différents constituants, leur interaction mutuelle et la manière dont ça s'organise. Et la simulation maintenant est devenue un outil indispensable à la cosmologie, parce qu'on peut, à partir d'une théorie, faire une simulation d'organisation de l'univers et d'organisation des constituants de l'univers et comparer ces prédictions avec les observations. Alors, je vais juste vous montrer une simulation. Donc, ici, vous avez une simulation de l'organisation de la densité de matière dans l'univers, ici, en fonction du temps. Alors, ici, l'univers est extrêmement jeune. Ici, c'est exprimé en fonction du décalage vers le rouge. Donc, ici, c'est l'époque actuelle. Là, c'est à peu près il y a 5 milliards d'années. Et là, c'est à peu près il y a une dizaine de milliards d'années. Donc, c'est vraiment les tout débuts de l'univers. Donc, ici, vous voyez, les structures ne sont pas encore formées. Et puis, progressivement, elles se forment. Et on arrive à avoir une espèce de gigantesque toile d'araignée dans laquelle tous les points qui sont ici, ce sont des surdensités qui correspondent à des amas de galaxies ou à des... essentiellement des amas de galaxies. Alors, il y a une dizaine d'années, on n'était absolument pas capable de faire ça. Ce type de résultat a été obtenu il y a 4-5 ans. On avait déjà des simulations. Mais maintenant, ce qu'on arrive à faire, c'est à faire en plus un suivi exact, complet de ce qui se passe dans toutes ces... à beaucoup plus petite échelle, où, par exemple, ici, vous avez le détail de ce qu'il y a dans cet amas. Vous voyez un amas de galaxies, puis toute une série de points qui sont là. Donc, c'est tout de même des simulations qui demandent 150 heures sur des machines massivement parallèles. C'est extrêmement lourd au point de vue calcul, mais c'est extrêmement précieux pour prédire, en fonction d'un modèle cosmologique, quelle sera la manière dont seront distribués les objets et comment ils seront organisés. Alors maintenant, la question qu'on peut se poser, si on veut progresser, c'est on a des outils pour prédire la constitution des objets dans l'univers, mais c'est où aller les regarder. Alors, où aller regarder, ça veut dire essentiellement, pour nous, on est sur Terre, donc c'est essentiellement à quelle longueur d'onde on peut aller observer les objets, qu'est-ce qui est le plus pratique pour aller les regarder. Et là, je dirais, il y a deux écoles possibles. Les sources de lumière, ce sont les réactions nucléaires qui sont à l'intérieur des étoiles, essentiellement. C'est ça la source d'énergie principale qui émet indirectement de la lumière. Alors, on peut soit observer directement le rayonnement des étoiles, soit, ça se fait bien lorsque l'on travaille dans le visible, dans l'ultraviolet, dans l'infrarouge. Mais dans une galaxie, vous avez non seulement des étoiles, mais vous avez aussi du milieu interstellaire, c'est-à-dire des poussières, des molécules qui sont entre les étoiles. Et le rayonnement des étoiles est absorbé par ce milieu interstellaire et est réémis. Si vous avez une étoile, la lumière de l'étoile traverse un nuage de poussière, ça va chauffer les poussières, et les poussières elles-mêmes vont réémettre. Et là, elles vont réémettre essentiellement dans l'infrarouge, parce que ce sont des corps qui sont extrêmement froids. Donc, on ne voit une étoile derrière un nuage de poussière que dans l'infrarouge, et on ne voit plus du tout le rayonnement initial de l'étoile. Alors, qu'est-ce qui est le plus pratique? Alors, ça, pour s'il y a des gens qui connaissent un peu le ciel, c'est la constellation d'Orion, qui est un objet assez spectaculaire qu'on voit dans le ciel, pas en ce moment, mais en hiver. Donc, vous avez ici les grandes étoiles brillantes d'Orion, le Baudrier, l'Épée. Et ça, c'est ce que vous voyez dans l'infrarouge. Parce que ce que vous voyez dans l'infrarouge, c'est tout le milieu interstellaire qui est entre ces étoiles. Alors, c'est même autrement spectaculaire que ces quelques malheureuses petites étoiles. Alors, pour vous convaincre que c'est beaucoup plus spectaculaire, c'est la même image, mais en plus grand. Donc, si vous aviez un œil infrarouge, c'est ça que vous verriez, et non pas du tout la disposition habituelle de la constellation d'Orion. Alors, quand on regarde, évidemment, si on regarde dans l'infrarouge ou dans le visible, on ne va pas voir du tout la même chose. Et c'est pour ça que depuis une vingtaine d'années, on a fait beaucoup d'efforts pour développer l'instrumentation infrarouge. Et pour voir en fait le ciel en infrarouge, il faut aller au-delà de l'atmosphère terrestre, puisque l'atmosphère terrestre bloque les infrarouges, quelque chose qui est bien connu par les gens qui se préoccupent de l'effet de serre. Ça bloque les infrarouges émis par la Terre, mais ça bloque aussi les infrarouges émis par les galaxies et les étoiles. Donc pour ça, il fallait aller au-dehors de l'atmosphère. Le premier satellite IRAS était un satellite américain, anglais et hollandais, a été lancé en 1983, et a permis de faire les premières images du ciel en infrarouge que je vous ai montrées, qui sont particulièrement spectaculaires. IRAS était un satellite qui faisait un défilement complet sur le ciel. Il n'était pas pointé, comme un télescope normal, c'est simplement il balayait le ciel régulièrement. Donc ça limitait sa sensibilité. Un autre progrès significatif a été fait avec le satellite ISO de l'Agence spatiale européenne qui a été lancé en 1995 et qui a fourni un certain nombre de résultats sur lesquels je reviendrai. Ce satellite sera suivi par le satellite SORTIF qui est tout à fait similaire à ISO avec des détecteurs un petit peu plus modernes et qui sera lancé en 2002 par la NASA. Et enfin, le dernier qui est à l'heure actuelle programmé est le satellite FIRST de l'Agence spatiale européenne qui sera, lui, lancé en 2007 et qui va travailler à des longueurs d'onde plus grandes, enfin plus lointaines dans l'infrarouge que les précédents qui travaillaient essentiellement entre quelques microns et 200 microns. Alors, quand on regarde une galaxie dans le visible, vous avez ici deux galaxies qui sont... Ici, vous avez une image classique obtenue avec un télescope au sol. Vous avez ici deux galaxies qui sont en interaction. Quand vous la regardez avec le télescope spatial, vous avez ici les deux galaxies. Vous avez ici une zone particulièrement obscure qui est en fait l'endroit où les deux galaxies rentrent en collision. Ceci génère des ondes de choc dans le gaz qui fait de la formation d'étoiles et crée aussi beaucoup de poussière. Donc, on voit, en fait, dans le visible, on ne voit rien. Là, vous avez ici superposé, je ne sais pas si ça se voit très bien, des contours qui sont les contours de l'émission infrarouge. Et vous voyez que la région d'émission maximum de l'infrarouge, c'est cette région-là, sur laquelle on ne voit pas grand-chose en optique visible. Et il y a une région ici extrêmement intense. Alors cette région intense, elle fait à elle seule 20% de l'émission de toute la galaxie dans l'infrarouge. Et cette région-là fait la moitié de l'émission de la galaxie. Et ce sont des choses qui sont complètement opaques aux longueurs d'onde visibles ou ultraviolets. Donc quand on veut regarder l'évolution d'une galaxie, on ne verra pas la même chose si on le regarde dans le visible ou dans l'infrarouge. Alors, pour comprendre comment ceci fonctionne l'univers lointain, les galaxies les plus lointaines, on peut comparer les propriétés vraiment des observations les plus profondes qui ont été réalisées à la fois dans le visible et dans l'infrarouge. Alors, dans le visible, c'était fait avec le Hubble Space Telescope, et c'est l'image que vous voyez ici, dans laquelle vous voyez il y a plusieurs dizaines de milliers de galaxies. Et vous voyez en particulier, vous voyez des grosses galaxies, ici. Tous ces points sont des galaxies. Puis vous en voyez des toutes petites, ici. Énormément de petites galaxies partout. Maintenant, vous avez les contours, ici, qui sont les contours de l'émission infrarouge vue par ISO. Alors, vous voyez d'abord qu'on ne voit pas... Toutes les galaxies n'émettent pas en infrarouge. Il y en a un certain nombre, seulement. Que celles qu'on voit sont les plus grosses. Donc, là encore, on voit... La comparaison des deux observations montre qu'il y a une évolution que l'on voit dans le visible, qui est en fait un excès de petites galaxies qu'on n'observe que là. Par contre, dans l'émission infrarouge, on voit que les galaxies, à cette époque, en fait, la majorité des galaxies qui sont là ont quelques milliards d'années, 5 milliards d'années en moyenne, les galaxies sont beaucoup plus lumineuses dans l'infrarouge que leur contrepartie actuelle. Alors, là, c'est un petit peu compliqué, mais je vais essayer de rendre ça simple. Ici, vous avez la longueur d'onde ou la fréquence. Et ici, vous avez la densité d'énergie. Et ici, vous avez les points qui ont été obtenus par différents moyens. Donc ici, vous avez les points obtenus à partir du comptage des galaxies par le Space Telescope. Ici, vous avez le point obtenu à partir du comptage des galaxies infrarouges, vu par ISOCAM. Et puis ici, vous avez ce qui a été mesuré à partir des satellites Kobe. Et ici, un dernier point, qu'est-ce que l'on peut faire maintenant du sol. Et ici, vous avez un spectre représentatif d'une galaxie qui est celle que l'on voit avec ISO. Donc, ce que l'on voit, c'est que les galaxies qui sont là ne peuvent pas expliquer celles que l'on voit dans le visible. Alors ça se voit directement, c'est ce que je vous dis tout à l'heure dans l'image, parce qu'on voit bien que les galaxies bleues qui font, les petites galaxies qui font cette luminosité, on ne les voit pas du tout en infrarouge. Et par contre, ceci ne permet pas d'expliquer non plus ce que l'on observe à plus grande longueur d'onde. Alors on peut se demander, est-ce qu'on manque beaucoup d'objets ici ou non ? Alors la réponse, c'est non. Et la réponse vient de les comparaisons entre des domaines d'énergie énormes. Parce que quand vous regardez des galaxies qui ont des trous noirs au centre, elles peuvent émettre des rayonnements à très très haute énergie, mais y compris des rayonnements, ce que l'on appelle des gamma. C'est-à-dire beaucoup plus dur que les rayons X. Et ces galaxies, ces photons gamma se propagent dans l'univers et ils rentrent en collision avec des photons infrarouges. Donc si vous regardez l'émission d'une galaxie dans le domaine des gamma, vous avez aussi une contrainte sur la densité d'énergie dans l'infrarouge. Et voilà la limite qui est obtenue ici, en comparant ces deux observations. Et on voit que les deux valeurs, celles qu'on obtient à partir des limites des gamma et celles que l'on obtient par le comptage des galaxies sont en accord par un facteur 2, ce qui est même assez vertigineux quand on pense que si on raisonne dans l'énergie d'un photon, il y a un facteur 100 milliards entre les photons qui savent faire cette observation et ceux-là. C'est-à-dire vraiment des domaines extrêmement différents. Donc, ça veut dire qu'avec les galaxies qu'on a observées avec ISO, on a fait le census à peu près complet des galaxies qui émettent dans cette région du spectre. Et à peu près la même chose pour le HDF. Par contre, il manque toujours quelque chose ici. Et c'est un peu sur le point pour lequel on a fait d'autres satellites. Donc, qu'est-ce qu'on a permis à partir de ces observations, qu'est-ce qu'on a obtenu comme résultat? On a obtenu trois résultats importants. D'abord, il y a 5 milliards d'années, il y avait déjà des grosses galaxies. Alors ça, c'est déjà une contrainte sur les modèles cosmologiques, parce qu'il y en avait un certain nombre qui prédisaient qu'il n'y aurait pas de grosses galaxies. En fait, il y en a, elles sont déjà formées, elles ressemblent à la nôtre. Il y a un nombre de galaxies plus grand, qui sont en fait des petites galaxies, et il y a aussi des galaxies, les galaxies normales ont une luminosité infrarouge plus grande. Donc ça indique assez fortement que ce qui se passe pendant l'univers, dans l'évolution de l'univers, vous avez en fait une espèce de fusion des petites galaxies qui sont mangées par les grosses et qui continuent à faire grossir les galaxies aux dépens des plus petites. Et progressivement, vous arrivez à peu près à la structure actuelle de l'univers où toutes les petites galaxies ont grosso modo disparu, elles ont été avalées par les grosses. Alors ceci, c'est ce qu'on a pour des... Disons, c'est la vision que l'on a de ce qui s'est passé depuis il y a 5 milliards d'années. Et la question, évidemment, c'est quelle est la question ? Qu'est-ce qui s'est passé avant ? Alors, pour savoir ce qui s'est passé avant, il faut savoir déjà où aller le chercher. Donc, ce que je vous ai montré sur l'émission diffuse, c'est qu'en fait, là où on voit qu'il y a un trou, où il nous manque des objets, c'est vraiment dans le domaine grande longueur d'onde, c'est-à-dire 200, 300 microns, vraiment l'infrarouge très lointain. Et c'est là où on sait qu'il nous manque des objets. Donc, pour ça qu'on a lancé deux programmes qui vont permettre d'aller observer ce domaine de longueur d'onde. Alors, il y en a un qui est un satellite, qui est dans le satellite FIRST dont j'ai parlé, qui va voir l'univers entre 60 et 600 microns et qui permettra d'aller regarder toutes les galaxies jusqu'à des distances, enfin des décalages vers le rouge de 5, c'est-à-dire en gros jusqu'à il y a 8, 9 milliards d'années. Et si on veut aller encore plus loin, à ce moment-là, il faut aller travailler dans des longueurs d'onde qui deviennent visibles du sol. Et il y a un grand projet qui s'appelle ALMA, qui se verrait être opérationnel en 2009 et qui lui permettra d'aller encore plus loin pour voir des objets encore plus jeunes. Alors FIRST, voilà à quoi ça ressemble. Donc c'est un très grand satellite. C'est un télescope qui fait 3,50 m de diamètre. Donc c'est déjà quelque chose d'assez important par rapport aux autres télescopes infrarouges. Les instruments sont refroidis ici à des températures de l'ordre de 2 degrés Kelvin, c'est-à-dire moins 271 degrés, pour limiter leur émission propre. Ici, vous avez le vrai satellite, c'est-à-dire celui qui porte les moyens de communication, la puissance, etc. Et alors en dessous, vous avez le satellite Planck, parce que pour faire des économies d'énergie, d'économies de lancement, les deux satellites seront lancés par la même fusée. Alors, vous avez ici, si ça veut bien marcher, la disposition de l'ensemble au sommet d'une Ariane 5. Et donc, vous voyez ici, à l'intérieur de la coiffe, alors ça rentre tout juste à l'intérieur d'une coiffe d'Ariane 5. Vous voyez ici, FIRST avec son télescope, le pare-soleil, et ici, une espèce de cône, enfin de cylindre, qui permet d'attacher le satellite Planck qui est en dessous. Alors, ces deux satellites vont être lancés à ce qu'on appelle vont être lancés à très loin de la Terre, à 1,5 million de kilomètres, ce qu'on appelle le point de Lagrange, c'est-à-dire le point où l'attraction gravitationnelle du Soleil et de la Terre sont égaux. Alors, ce n'est pas un endroit stable, parce que de toute façon, ils ont tendance à tomber, mais si vous avez la Terre, le Soleil et le point de Lagrange, on peut avoir des orbites stables dans un plan qui est perpendiculaire à cet axe. Et donc, c'est ça qui est utilisé. Et donc, vous avez ici l'orbite. Donc, ça va partir à 1,5 million de kilomètres. Les deux vont se mettre sur une trajectoire circulaire, se sépareront, et FIRST va décrire une grande boucle, et Planck sera sur une orbite plus faible, enfin plus, avec un rayon plus court autour du point de Lagrange qui est au milieu des deux cercles. Donc vous avez ici une vision de la configuration en vol, et ici une vision de Planck une fois qu'il sera séparé de FIRST. Donc ALMA, alors c'est un projet donc, de radiotélescope. Alors ça va être installé dans un site riant, qui est le désert d'Atacama au nord du Chili, à 5000 mètres d'altitude. Alors, si vous avez des amis Sherpa ou on cherche des volontaires pour aller travailler à ces altitudes-là. Et ça ressemblera à ça, c'est-à-dire un réseau d'antennes, 64 antennes de 12 mètres, qui permettront de faire des observations extrêmement précises en utilisant des techniques d'interférométrie. Donc ça, c'est un projet, alors c'est un très gros projet, c'est extrêmement ambitieux, qui est fait en collaboration mondiale, entre les États-Unis, l'Europe, et il y aura probablement une participation du Japon. La première mise en service de cet observatoire sera prévue en 2008-2009, ça dépend si vous êtes très optimiste ou pas. Alors les questions, qu'est-ce qu'on attend de FIRST et d'ALMA? D'abord, ce que l'on attend, c'est vraiment de savoir quelle est l'évolution des galaxies entre des redshifts, la formation des galaxies proprement dite et il y a quelques milliards d'années, puisque ce qui s'est passé entre quelques milliards d'années et maintenant, on le connaît déjà grosso modo avec les observations du Space Telescope et de ISO et des télescopes au sol. Donc c'est essentiellement ça qu'on attend de FIRST et d'ALMA et on attend impatiemment les réponses. Alors, il y a une autre approche. Là, je vous ai parlé de choses où on observe l'émission des poussières et pas celle où on observe les étoiles. Alors maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est lorsque vous regardez un objet très lointain, il est très jeune, Donc il n'a pas eu le temps d'évoluer beaucoup. Et donc, est-ce qu'il y a eu le temps de former des poussières? Pour former des poussières, il faut ces poussières interstellaires. Elles sont fabriquées comme les poussières terrestres, de carbone, de grains de silicate. Et donc, pour ça, il faut que ces matériaux aient pu être fabriqués dans les étoiles, éjectés dans le milieu interstellaire, ou que vous ayez le temps de former des poussières. Donc, est-ce que les galaxies primordiales ont des poussières ou non? En fait, on n'en sait rien. Vous avez autant d'avis qu'il y a d'astronomes là-dessus. Et donc, on peut essayer d'aller regarder directement les étoiles. Alors ça, c'est l'idée qui était déjà derrière le Space Telescope, le Hubble Space Telescope, qui a permis déjà de... Maintenant, on connaît à peu près la réponse jusqu'il y a 5 milliards d'années, mais pour aller au-delà, il faut construire quelque chose de plus, encore plus grand, qui est le New Generation Space Telescope. Donc, le télescope de Hubble, c'est un télescope de 2,60 m, déjà intéressant. Et le New Generation Space Telescope sera un télescope de 8 mètres, ce qui là commence à faire vraiment grand. Et il sera aussi optimisé pour aller travailler dans l'infrarouge proche, simplement parce que quand vous allez chercher des objets loin, les émissions des étoiles sont décalées par le décalage cosmologique jusque dans l'infrarouge proche. Et donc vous avez ici une vision, un magnifique dessin de ce que représente le... à quoi ressemblera le New Generation Space Telescope, avec ici un énorme pare-soleil pour protéger le télescope de la lumière du soleil qui vient de là, et ici le miroir, un télescope classique. Alors ce télescope ira aussi au point de Lagrange, qui va devenir un endroit particulièrement occupé du ciel. Alors, le problème principal du Space Telescope, c'est que une fusée, c'est pas infini, donc vous pouvez pas mettre un miroir de 8 mètres entier. En plus, le pare-soleil, il fait à peu près 20 mètres de haut, donc c'est à peu près la taille d'un terrain de tennis. C'est pas facile à faire rentrer dans une fusée. Donc en ce moment, les gens travaillent sur la manière de faire ça. Et voilà, donc là, j'avais la configuration au lancement. Ici, on déploie les panneaux solaires. Donc là, vous avez le système qui se met en place pour faire gonfler le pare-soleil. Il se gonfle. Et à ce moment-là, vous avez les pétales qui constituent le miroir primaire qui s'ouvre et le miroir secondaire qui remonte comme ça. Et là, vous avez la configuration finale qui va servir à faire les observations. Alors maintenant, vous mettez une probabilité sur la fiabilité de chacun de ces mécanismes et vous obtenez la fiabilité finale du système. Donc les gens essayent de trouver un truc un peu plus simple que ça. Mais enfin, pour l'instant, c'est ça le... Alors, maintenant, on peut se poser aussi même la question, les grands télescopes au sol, à quoi ça sert? Parce que finalement, je vous ai parlé beaucoup de l'espace et pas du sol. En fait, on a besoin des télescopes au sol parce que on peut pas mettre, à supposer qu'on, enfin, le NGST sera une première réponse, mais on peut même mettre des télescopes beaucoup plus petits au sol que dans l'espace. Et donc, pour faire des études détaillées d'objets, il faut absolument avoir des grands télescopes au sol. Mais il y a tout de même, la limitation principale reste tout de même l'atmosphère. Donc c'est pour ça qu'il faut combiner des observations au sol pour avoir le grand pouvoir collecteur de lumière et les observations dans l'espace pour obtenir la meilleure sensibilité pour faire des très grandes cartes et des grands relevés du ciel. Et les deux moyens sont complètement complémentaires. Alors, il y a un point sur lequel, quelque chose qui est probablement moins connu du grand public, c'est l'utilisation des grands télescopes au sol pour faire des mesures par absorption. Si vous avez un objet qui est très distant, la lumière qu'il émet va traverser un très grand nombre d'objets avant de nous parvenir. Bon, en particulier des galaxies. Ces galaxies sont remplies de gaz, elles sont remplies de milieux interstellaires, de poussière, donc elles vont absorber la lumière. Et elles vont l'absorber sélectivement sur des longueurs d'onde qui correspondent, bon, par exemple, à des transitions atomiques ou des transitions ioniques. Et donc, le spectre, si on regarde le spectre ici, qui serait le spectre initial de la source, il va être absorbé à certaines fréquences, à certaines longueurs d'onde, par cette galaxie. Et ces spectres-là, ces systèmes d'absorption, vont être décalés en fonction du décalage cosmologique de chacune des galaxies qui interviennent sur la ligne de visée. Alors, ça donne un accès tout à fait intéressant à des galaxies qui sont extrêmement lointaines, qu'on n'aura même aucune chance de voir, même probablement avec le NGST. On les voit, donc, on les voit pas. Elles se manifestent seulement dans ce type d'observation par leurs absorptions. Alors, pour vous donner un ordre de grandeur, sur dans des observations de quasars, on peut voir jusqu'à plusieurs centaines de systèmes en absorption. Donc, vous faites une seule observation d'un objet et vous récupérez de l'information sur une centaine de galaxies qui sont sur la ligne de visée. Et c'est un moyen qui est extrêmement puissant pour aller rechercher des objets qu'on ne peut en fait même pas imager parce qu'ils sont trop faibles. Donc ça, c'est un type d'observation qui est vraiment spécifique des observations au sol, où évidemment on a besoin d'énormes quantités de lumière pour faire ce type de mesure. Alors, pour vous montrer aussi le développement considérable qu'il y a eu sur les télescopes au sol, ici vous avez la surface collectrice qui va être obtenue, enfin qui est pratiquement opérationnelle. Vous avez ici la catégorie des télescopes de 4 mètres, des télescopes qui font 6-7 mètres. Ici, les deux télescopes de Keck aux États-Unis qui font 10 mètres. Ici, le projet européen de 4 télescopes de 8 mètres, le Very Large Telescope qui est au Chili. Et puis, un certain nombre d'autres projets. Il y a un certain nombre d'années, quand j'ai commencé ma thèse, il existait le télescope CFH, le télescope Yukert et le télescope de l'ESO. Donc, c'était il y a... Bon, je ne suis pas très jeune, mais ça fait même en 25 ans, ça fait un nombre considérable, une explosion du pouvoir collecteur de lumière au sol. Alors, d'ailleurs, ça se voit quand vous regardez ici, c'est une montagne du Mauna Kea à Hawaï, où vous avez ici la montagne entièrement peuplée de télescopes. Ici, vous avez les deux télescopes de Keck. Ici, le télescope japonais Subaru, aussi le télescope Canada-France-Hawaï. Ici, télescope canadien, anglais, Gemini. Et puis ici, d'autres télescopes millimétriques. Donc maintenant, cette montagne qui était un véritable désert, ça ressemblait à la Lune. Maintenant, il y a une population énorme. Alors, je vais vous montrer une image, parce que les gens s'imaginent toujours que les astronomes, ils ont la vie belle à Hawaï, ils vont faire du surf et tout. C'est surtout les gens qui nous payent les missions, ils nous disent toujours ça. Alors, la condition, tout de même, qu'il y a de temps en temps sur cette montagne, c'est tout de même 4200 mètres de haut et très souvent il y a de la neige et il ne fait pas toujours beau non plus. Alors ici vous avez le site du VLT au Chili, aussi dans le désert d'Atacama aussi, mais plus bas que ne sera Alma, à 2600 mètres. Et vous avez ici les 4 télescopes qui sont en fin de construction, il y en a 3 qui sont opérationnels et le dernier va être opérationnel bientôt. Alors c'est tout de même des grosses machines. Ça, c'est un des télescopes de 8 mètres du VLT. Il n'y a personne pour donner l'échelle, mais c'est à peu près ça, une personne ici. C'est des très, très grosses machines. Et ça représente des investissements assez considérables. Alors, les questions qu'on va aborder avec les télescopes au sol, c'est vraiment l'étude détaillée des objets qui seront découverts en fait par les missions spatiales. Et c'est ça, cette complémentarité entre le sol et l'espace. L'espace est fait pour la détection des objets lointains, pour en faire des grands relevés, et le sol est fait vraiment pour faire des études extrêmement détaillées de ce que l'on peut faire avec ces objets. Donc, alors, je ne vous ai pas parlé, jusqu'à présent, je vous ai parlé de ce que l'on peut faire avec les constituants de la matière de celle qu'on voit. Je ne vous ai pas parlé non plus, je ne vous ai pas parlé de la détection de la matière noire. Alors, la matière noire, c'est quelque chose qui, pour l'instant, reste un mystère. Comme je vous l'ai dit, on la voit. On la voit par ses effets dynamiques, mais on ne la voit pas directement par ses rayonnements. Et il existe, pour voir cette matière noire, on peut la cartographier à l'heure actuelle. Alors, comment est-ce qu'on la cartographie ? On la cartographie en utilisant essentiellement des propriétés de lentille gravitationnelle, c'est-à-dire que vous savez qu'en relativité générale, un rayon lumineux est dévié lorsqu'il passe au voisinage d'une masse. C'est une observation qui avait été faite sur le Soleil. Quand vous voyez une étoile juste derrière le Soleil, quand elle transite derrière le Soleil, enfin chose, le Soleil transite devant l'étoile, on voit qu'il y a une légère inflexion de la position de l'étoile qui, en fait, est liée à cet effet relativiste. Alors maintenant, si vous regardez... Je vais aller un peu plus vite. Ce qui se passe pour des objets lointains, si vous avez, quand vous avez simplement un objet ponctuel, bon, vous avez une courbure des rayons lumineux, si vous avez un objet qui est tendu, en fait, si vous faites le calcul, vous voyez que cet objet se transforme en une forme d'arc. Alors, ça, c'est des choses que l'on observe. Vous avez ici un amas de galaxies. Toutes les grandes taches, là, ce sont des galaxies de cet amas. Et puis, vous voyez des traces comme ça. Là. Alors, ceci, ce sont des galaxies qui sont derrière l'amas et dont l'image est déformée lorsque la lumière traverse l'amas, justement, pour que cet amas de galaxies produit en fait cette déformation en forme d'arc. Et à partir de ça, on peut retracer la manière dont est distribuée la matière à l'intérieur de l'amas. C'est-à-dire, vous supposez que vous avez des galaxies lointaines, vous avez une image, ce qu'il faut calculer, c'est la lentille qui fabrique cette image. C'est exactement, vous faites le calcul optique à l'envers pour recalculer la lentille qui vous donne cette distribution d'images et de formes des galaxies. Alors si on regarde, bon, c'est un petit peu plus schématique, mais comme ça, vous avez ici des galaxies, la lumière qui traverse toute une série d'amas, de galaxies, de grandes structures, et qui apparaît déformée ici. Alors ce que ça peut donner, si vous, au lieu de le voir comme ça en trois dimensions, si on vous projetait tout comme vous aviez un observateur qui regarderait sur cette ligne de visée, ça vous donne ceci. Donc vous avez les grandes structures qui sont analogues aux premières simulations que je vous avais montrées au début. Donc ici, vous voyez tous les grands filaments de matière. Et les images en bleu, ben c'est les images de galaxies déformées par lors de leur trajet, le trajet de la lumière entre ces galaxies et nous. Et ça permet de tracer tout à fait correctement la direction dans laquelle sont tous ces filaments. Donc même si on ne voit pas ce qu'il y a, on ne voit pas cette distribution de matière noire, par contre, on en voit les effets, et si on est capable de mesurer ce type de déformation, à ce moment-là, on est capable de recalculer la densité de matière qui est capable de fabriquer ces cartes. Alors ça, là, il y a beaucoup de... la démonstration de la faisabilité de ces observations vient d'être faite. C'est un résultat qui a été publié au début de l'année par un groupe de l'Institut d'astrophysique à Paris, avec Ludovic van Verbeek, Yannick Mélier et d'autres personnes. Maintenant, c'était confirmé par d'autres groupes. Donc, on sait que ces observations sont faisables. Et c'est un des projets que l'on veut faire avec le projet qui s'appelle MegaCam, qui est une collaboration entre le CNRS, le CEA et le National Research Council du Canada. Il sera installé sur le télescope Canada-France-Hawaï, justement pour faire ce type de mesure et cartographier distribution de la matière noire à très grande échelle. Et ça, on espère que ça marchera d'ici un an. Donc en conclusion, alors bon, ce que l'on peut faire avec ces mesures, c'est donc comparer la distribution de densité de l'univers, et ça se compare directement avec les modèles théoriques de la distribution de matière que l'on peut calculer à partir des modèles cosmologiques. Donc, en fait, en conclusion, on va avoir... Il y a eu des progrès considérables qui ont été faits depuis une vingtaine d'années dans la cosmologie observationnelle. Et ces progrès vont continuer. Et il va vraiment y avoir une explosion de nouveaux moyens disponibles qui vont être mis en service dans les 10 prochaines années. Et ça va être, je pense, un âge d'or de la cosmologie observationnelle, parce que là, on aura... énormément d'outils pour à la fois faire des cartographies de la matière noire, des cartographies de tous les objets de galaxies, des amas de galaxies. On aura une cartographie propre et complète sur tout le ciel des fluctuations du fond diffus cosmologique. Ça devrait donner des contraintes extrêmement fortes sur tous les modèles. Alors, la seule chose pour laquelle on ne sait pas à l'heure actuelle comment vraiment aborder le problème, enfin plutôt on sait qu'il y a beaucoup trop d'observations, beaucoup trop de moyens et d'hypothèses, c'est quelle est la nature de cette matière noire. Là, je pense qu'on trouvera par hasard une solution, parce que on cherche dans énormément de directions, et toutes les directions dans lesquelles on a essayé de chercher à l'heure actuelle se sont soldées par des échecs. Et j'espère qu'on trouvera la solution dans les quelques années qui viennent. Mais là, on ne sait pas vraiment à quelle échelle de temps on trouvera la réponse. Tandis qu'on sait que si Planck est lancé, que l'Ariane 5 qu'il lance n'explose pas, et que Planck marche comme on l'espère, à ce moment-là, on aura une carte du fond diffus cosmologique dans 10 ans. Et à ce moment-là, on verra si l'univers est vraiment complètement plat. Voilà.
Comment sont pris les différents projets ? Il y a beaucoup de nations qui interviennent, il y a beaucoup de gens, etc. Sur quelle référence se base-t-on pour décider de donner la préférence à un projet plutôt qu'à un autre, en moyenne ?
Par compétition scientifique. C'est-à-dire que si vous prenez par exemple le cas des satellites de l'Agence spatiale européenne, l'Agence spatiale européenne émet un appel d'offres en disant « voilà, je veux faire un projet dans... d'ici 5-6 ans, et pour tel budget, qu'est-ce que vous nous proposez ? Donc à ce moment-là, les scientifiques font des propositions qui sont évaluées par un comité scientifique, le projet est choisi parmi un certain nombre d'autres. Et la compétition est forte, puisque en général, pour un appel d'offres de l'Agence spatiale européenne, il y a plus d'une vingtaine de projets qui sont envoyés. Et donc, c'est sur des critères purement scientifiques. Il y a des contraintes qui sont évidemment les contraintes budgétaires des agences. Donc, elles savent qu'elles peuvent faire un projet qui a telle ampleur financière, et les gens font des propositions qui sont évaluées. Et c'est la même manière pour partout, y compris les télescopes au sol.
Bonjour, monsieur. Je ne suis pas du tout un scientifique. Et alors, moi, je pose une question très terre-à-terre, si je puis dire. D'abord, je voudrais savoir si notre galaxie, est-ce qu'elle est petite ou grosse ? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un risque qu'on se fasse manger ou pas ? Rassurez-nous, merci.
Alors, de manière générale, notre galaxie est une galaxie moyenne. Ce n'est pas une très grosse, ce n'est pas une très petite. Par contre, ce qu'on sait, c'est qu'elle a probablement mangé des plus petites. On voit certaines déformations dans la structure de notre galaxie qui indiquent qu'elle a sinon capturé, du moins entré en interaction assez forte avec des galaxies dans le passé. Et on voit aussi deux galaxies, enfin, si vous avez été dans l'hémisphère sud, vous avez peut-être vu deux points de taches lumineuses qui s'appellent les nuages de Magellan. Ce sont en fait des galaxies très proches de la nôtre, sont beaucoup plus petites et qui sont en interaction, et probablement il y en a une qui finira par se faire capturer par notre galaxie. Mais ça, vous ne le verriez même pas, si, de toute façon. C'est des phénomènes qui se passent à une telle échelle que vous pouvez vivre tranquille, même si la galaxie est en train de manger une autre.
Une question. Vous remontez de plus en plus loin dans l'univers. Donc, est-ce qu'on peut arriver à aller jusqu'au Big Bang ? Est-ce que c'est une question qui est réaliste ? Et à la limite, est-ce qu'on peut avoir des questions sur l'avant Big Bang ? Est-ce que même ça a un sens ?
Tant qu'on refait de la... Donc, on fait des observations, vous ne pouvez pas remonter plus loin que leur combinaison, puisque avant, l'univers était opaque, et donc on n'a pas accès directement par des mesures de rayonnement. Donc, si les gens s'intéressent à ce qui se passe avant leur combinaison, il faut forcément passer par des modèles qui prédisent un certain nombre d'observations sur la structure de l'univers au moment de leur combinaison, et dont on peut retrouver la trace dans les observations du fond diffus cosmologique. C'est la seule manière de faire. Et autrement, c'est la limitation, de la physique, et il n'y a pas de moyen direct de faire des observations. Alors, quant à votre question de avant le Big Bang, ça, c'est un problème métaphysique auquel je ne suis pas vraiment qualifié pour répondre.
Monsieur, allez-y.
Est-ce qu'il existe des projets de sites d'observation sur la Lune ?
Oui, il y a eu des projets. En particulier, il y a quelque chose qui est extrêmement intéressant sur la Lune, c'est pour faire installer des grands radiotélescopes, parce que l'observation en radioastronomie à l'heure actuelle devient de plus en plus difficile sur Terre. Bon, je ne sais pas combien d'entre vous ici ont des portables. C'est une catastrophe totale pour l'astronomie, parce que, évidemment, les émissions des portables, enfin, des télévisions, les radiofréquences qui sont utilisées pour la vie courante, empiètent de plus en plus sur les bandes de fréquences qui sont utilisables par la radioastronomie. Alors, une idée consiste à aller mettre des radiotélescopes sur la face cachée de la Lune. Et à ce moment-là, c'est la Lune qui fait un écran. Et c'est probablement la région du proche, si je peux dire, de nous, la plus propre au point de vue radiofréquence. Donc, il y a un traité international qui stipule qu'on n'a pas le droit d'aller faire la pollution radio sur la Lune, justement pour protéger ça. Maintenant, à quelle époque ça se réalisera, c'est pas très rapide. En tout cas, il n'y a pas de projet concret à étude en ce moment. En tout cas, sélectionné, il y a des projets, il y a des rêves, mais il n'y a rien de sélectionné.
Une question là-haut, allez-y, monsieur.
J'ai pas compris isotrope, le mot isotrope, et le mot, qu'est-ce que c'est qu'un trou noir ? C'est mes deux questions.
Ah. Bon, alors, isotrope, ça veut dire que c'est uniforme dans toutes les directions. C'est-à-dire que vous regardez, si vous déplacez dans une direction donnée, vous allez trouver la même structure d'univers, le même nombre d'étoiles, le même nombre de galaxies. Vous regardez dans une autre, vous retrouvez la même chose. Donc c'est quelque chose qui est uniforme spatialement. Et aussi, alors, bon, un trou noir, ça c'est un autre problème, qui est lorsque vous avez un objet qui est extrêmement dense, il peut être suffisamment dense pour que la lumière elle-même ne puisse plus pas s'échapper de cet objet. Donc ça, c'était une vieille idée qui avait été avancée à la fin du XVIIIe siècle par Laplace, mais qui s'explique bien en relativité générale, où en fait, j'ai dit que les rayons lumineux étaient déviés s'il y avait de la matière, mais si vous avez une densité de matière tellement extrêmement grande, en fait, les rayons lumineux ne peuvent même plus sortir de cette région. Donc c'est des objets qui sont extrêmement denses, on ne peut pas les voir parce que justement la lumière qu'ils pourraient émettre est complètement piégée à l'intérieur de ce trou noir, donc c'est pour ça que ça s'appelle des trous noirs. Et c'est des objets que l'on pense être présents dans les noyaux d'un certain nombre de galaxies. C'est des objets qui feraient quelques millions de masses du Soleil.
Monsieur, allez-y.
Vous avez parlé jusqu'à maintenant des photons. Oui. Est-ce qu'on peut espérer voir quelque chose avec d'autres particules ? Je sais pas, j'ai entendu parler de neutrinos ou de gravitons. Enfin, bon.
Oui, ben c'est tous les gens qui recherchent la matière noire essayent de rechercher des particules qui pourraient effectivement faire cette matière noire. Alors, il y a plusieurs hypothèses. Bon, une qui est assez vieille, qui consisterait effectivement à dire que les neutrinos ont une masse. Et donc, il y a des projets. Alors ça, c'est vraiment une activité qui est faite en commun entre les astrophysiciens et les physiciens des particules pour essayer de faire de la détection de neutrinos qui seraient émis par des étoiles, ou pas par des étoiles, mais on va dire par des galaxies, d'une part. Et d'autre part, les physiciens des particules qui essayent de mesurer la masse de ces neutrinos. Donc il y a des projets, et en particulier la France participe à un grand projet de détection de neutrinos qui s'appelle Antares, qui est installé. Alors pour détecter des neutrinos, c'est pas facile. Donc là, en fait, l'idée, c'est d'utiliser de ne pas voir le neutrino directement, mais de voir un neutrino qui ferait une collision avec une autre particule qu'on appelle le muon, est capable d'accélérer ce muon à une grande vitesse. Et si vous observez dans l'eau, à ce moment-là, vous verrez l'émission de Cherenkov du muon. Donc c'est des grands détecteurs qui sont dans la mer, où on essaye de détecter des pulses de lumière qui seraient dues à ces conversions de neutrinos. Donc ça, c'est un projet qui est aussi extrêmement ambitieux. Pour l'instant, il n'y a que des phases de recherche et développement. Et par contre, les physiciens des particules, eux, font des manips en accélérateur pour déterminer la masse. Alors il y a une autre catégorie de particules qui pourrait expliquer la matière noire, ce qu'on appelle des WIMPs, c'est-à-dire des Weakly Interacting Massive Particles, qui sont des particules hypothétiques qui sont prédites par certains modèles de physique des particules, qui sont ce qu'on appelle des modèles supersymétriques. Et les gens essayent de détecter ces particules. Alors c'est difficile aussi de faire un détecteur pour détecter une particule dont on ignore tout. Alors, la spécification est pas facile à faire. Donc là, l'idée, c'est qu'on ne sait pas comment elle interagit. Donc ce qu'on essaie, c'est de la capturer, enfin qu'elle interagisse dans un détecteur, et on mesure l'élévation de température de ce détecteur. On suppose que c'est des particules qui ont une assez grande énergie, donc on essaie de récupérer l'énergie sous quelque forme qu'elle soit. Et là aussi, maintenant, il y a des projets en Allemagne, aux États-Unis, en France, pour détecter ces particules. Jusqu'à présent, on n'a pas encore réussi vraiment à les détecter, bien qu'il y a un résultat qui était annoncé sur un signal qui pourrait être interprété comme une détection récemment par un groupe japonais.
Oui, la littérature de vulgarisation parle d'une controverse quant à quelque chose qui concernerait la question des cendres. Moi, j'ai retenu les cendres du deutérium, mais ça pourrait être beryllium ou lithium, j'en suis pas absolument certaine. Et comment il s'agirait de la question des proportions des éléments primordiaux. Et il semblerait qu'il y ait, au niveau du comptage, une dissension entre les spécialistes. Alors, est-ce que vous pouvez nous résumer la querelle et nous expliquer comment on compte, comment on détecte et comment on compte des éléments de cette sorte? Merci.
Oui. Bah, disons, bon, dans le modèle du Big Bang traditionnel, dans les différentes phases du Big Bang, on passe effectivement par une phase dite de nucléosynthèse primordiale, c'est-à-dire de construction des noyaux. On part de particules, de quarks, etc. Puis après, on fabrique des éléments comme les protons, les électrons. Puis après, on fabrique aussi quelques noyaux plus lourds que le proton, qui sont essentiellement le deutérium, le beryllium et le lithium. Donc, suivant les modèles que l'on se donne dans ces modèles de Big Bang, on arrive à prédire des quantités variables de ces différents éléments. Donc si on était capable de mesurer précisément le deutérium, l'abondance de deutérium, l'abondance de lithium, on serait capable d'avoir des contraintes très fortes sur les modèles de Big Bang. Le problème, c'est que mesurer ces objets, c'est pas très facile. Enfin, mesurer ces corps, c'est essentiellement pour plusieurs raisons. D'abord, le deutérium est quelque chose qui est extrêmement... Le deutérium, bon, c'est un noyau d'un proton et un neutron. Et chimiquement, ça ressemble beaucoup à l'hydrogène. Et il y a des tas de phénomènes de ce qu'on appelle de fractionnement. C'est-à-dire, si vous prenez un objet, si vous prenez une molécule de la mesure de cette molécule deutérée par rapport à l'abondance atomique est complètement différente parce que vous avez des phénomènes chimiques qui favorisent. Disons, les molécules enrichies en deutérium. Donc, quand vous faites des mesures vous cherchez une mesure de deutérium, qu'est-ce que vous faites? Vous faites de la spectroscopie, exactement comme on fait dans un laboratoire, d'objets dans lesquels il y a de l'hydrogène. Donc, vous allez regarder les planètes géantes comme Jupiter, Saturne, vous allez regarder le Soleil, vous allez regarder les étoiles, et vous essayez de mesurer la quantité de deutérium qu'il y a simplement en mesurant l'intensité des raies d'émission ou d'absorption, suivant les cas. Mais il y a ces phénomènes chimiques qui compliquent beaucoup l'interprétation de la mesure. Les mesures sont très propres, mais c'est l'interprétation de la mesure qui est difficile. Et pour le lithium, c'est un peu pareil. En plus, il y a une autre difficulté, c'est que Évidemment, entre le moment où ces noyaux ont été créés dans le Big Bang et maintenant, il s'est passé plein de choses. Il y a des galaxies, il y a des étoiles qui sont formées, qui ont produit du lithium, qui en ont détruit, qui ont détruit du deutérium. Donc, entre les abondances que vous mesurez maintenant et celles qui ont été produites dans le Big Bang, il y a aussi des choses qui sont dépendantes des modèles. Donc, c'est pour ça qu'en ordre de grandeur, ça marche bien, mais quand on va fouiller dans le détail, on peut tomber sur certaines incohérences. Et là, ce sont des choses où les observations qu'on fera à partir des grands télescopes au sol vont permettre d'aller faire des mesures plus précises dans d'autres galaxies que la nôtre, et je pense qu'on devrait avoir des contraintes un peu plus fortes dans le futur. J'espère que j'ai à peu près répondu à votre première question. La deuxième, quelle est la différence entre un quasar et une galaxie active? Il n'y en a quasiment pas, parce qu'il y a plus simple. Je m'explique, qu'est-ce que c'est qu'une galaxie active? C'est une galaxie dans laquelle il y a effectivement probablement un trou noir au centre de cette galaxie, et ce trou noir, alors je vous ai dit que le trou noir on ne le voyait pas, mais par contre c'est une énorme masse, et il y a plein de matière, tout ce qui tourne, tout ce qui est à côté va tomber sur ce trou noir. Et cette matière, comme elle va tomber, c'est comme... pendant qu'elle tombe, elle va être comprimée, elle va être réchauffée, elle va rayonner. Donc ce que l'on voit, ce n'est pas l'émission du trou noir, ce qui n'est pas faisable, mais on voit l'émission de la matière qui tombe sur le trou noir. Et donc, comme c'est de la matière qui est extrêmement comprimée, cette matière émet essentiellement dans les domaines des hautes énergies, c'est-à-dire les rayons X, les rayons gamma. Et les quasars, c'est la même chose, sauf que le rapport entre le noyau la partie vraiment centrale qui est due en fait à cette accrétion de matière sur le trou noir et le reste de l'émission de la galaxie est complètement changé. Si vous prenez une galaxie active, la partie du noyau représente 10 à 20% de l'énergie émise de manière globale par la galaxie. Si vous prenez un quasar, c'est l'inverse, c'est plutôt 80%. Mais c'est le même phénomène, c'est la même chose.
Laurent Vigreux, je vous remercie.